Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. J'espère que vous allez bien à l'approche des fêtes de fin d'année. Non, plus sérieusement, je ne sais pas quand est-ce que je vais diffuser ce podcast, mais je l'enregistre avant les vacances de Noël, puisque voilà, je serai parti loin de la France pour vous parler du scoutisme. Et qu'est-ce qui m'a donné l'idée de vous parler du scoutisme? C'est que je suis retombé récemment sur un reportage du média Amen. Amen Media, qui est disponible sur YouTube ou Instagram, et qui porte sur Vézelay, le pèlerinage de Vézelay. Alors en fait, le pèlerinage vers la basilique de Vézelay existe depuis fort longtemps. Je vous invite à relire Henri Vincenot, le pape des escargots, qui raconte une Bourgogne à la fois païenne, chrétienne, mais très mystique. Et il y a au cœur de du pape des escargots, Vézelay, évidemment, une terre au carrefour des forces telluriques, comme il le raconte. Mais bref, il y a depuis longtemps un pèlerinage à Vézelay, et même avant les chrétiens, c'était un lieu de culte. Plus spécifiquement, ça portait sur le pèlerinage des scouts d'Europe vers Vézelay. Alors, il me semble que c'est spécifiquement les scouts d'Europe ou peut-être les autres groupes, mais là, c'était sur les scouts d'Europe que j'ai vu le reportage, qui font ce pèlerinage à Vézelay et plus particulièrement les routiers. Donc, les routiers, donc il y a les louveteaux, il y a les scouts, les éclaireurs, et après, il y a les routiers. Donc, les routiers, c'est quand vous avez 17-18 ans et ça va être quelque chose de plus personnel, même s'il y a... ce qu'on appelle le clan, je crois, ou le feu, le clan. Mais je connais mal, moi, j'ai pas été routier, malheureusement. Donc, je connais mal, mais c'est la dernière étape du scoutisme du scoutisme quand on est un jeune. Puisqu'après, ça continue toute la vie. S'il faut, on a des responsabilités dans la hiérarchie, etc. Et en fait, et donc j'avais filmé ça en story, et j'ai eu plein de retours de gens qui me disaient, mais c'est vrai que le scoutisme, on oublie, mais c'est... C'est une formidable à création de mecs solides, de mecs droits. Ça apporte énormément de valeur, de repères. Ça donne le goût de l'effort, de la communauté, de l'entraide, du don de soi. C'est un antidote au gauchisme déjà dans ce qu'il a de actuel, dans le gauchisme actuel, c'est-à-dire des gens assez individualistes mais qui pensent être altruistes, mais qui en fait pratiquent leur altruisme et dans leurs arrière-mondes, dans leurs pensées, dans leurs rêves, mais ne le font jamais concrètement. Ce gauchisme qui ultra-individualiste, qui consiste à vouloir être sa propre réalisation, à s'autodéterminer dans tout. Le scoutisme, en fait, va apprendre des valeurs qui empêcheront la plupart d'entre eux de glisser vers ce genre de choses. Alors évidemment, souvent chez les scouts, il y a un environnement familial qui prédispose déjà à pas finir comme une merde, à être individualiste, paresseuse et médiocre. Mais ça aide beaucoup. Il y a plein de gens qui viennent pas seulement de familles catholiques, de familles militaires, etc. Parce que c'est vrai que c'est un peu le cliché du scout. Et le scoutisme souffre de beaucoup de clichés, on va commencer par ça. Mais voilà, le scout souffre d'une très mauvaise image de garçon de bonne famille. Mais il y a énormément de personnes qui arrivent dans le scoutisme un peu par hasard et qui sont happées dedans et qui vont faire tout un cursus. Et ça va changer leur vie, enfin ça change la vie de tout le monde. Mais voilà, il y a des gens de tout milieu qui y viennent et c'est ça qui est heureux. Et c'est une chance pour les gens qui croisent la route du scoutisme. Alors les clichés du scoutisme, alors bien souvent la culture française et les films font énormément de mal à notre culture, aux représentations forcément, et notamment je crois que c'est le film Scout Toujours, moi je l'ai même pas vu, mais combien de fois j'en ai entendu parler, combien de fois j'ai eu des retours par rapport à ça, en rapport au scoutisme. Donc moi j'ai été louveteau un peu tardivement parce qu'on n'avait pas là où j'habitais, puis j'ai été scout, donc en tout j'ai fait 5 ans de scoutisme, donc c'est pas énorme. Et je me suis arrêté en cours de route de mon scoutisme après 4 ans à la troupe parce que donc il y a la meute, donc c'est les louveteaux, et après il y a la troupe, c'est les scouts, les éclaireurs, parce qu'après je suis parti vivre à l'étranger avec mes parents. Et donc on souffre, et tous ces clichés, j'en ai entendu parler de tout mon de tout mon parcours au scout. Et c'était hey, scout toujours. Alors en effet, c'est la devise du scout, c'est scout toujours prêt. Et ça venait de, je crois, de ce film avec Gérard Jugnot, il me semble. Et voilà. Et donc le scout, c'est un petit gars qui fait des petits trucs dans les bois, un peu niais. Il y a même un cliché de ce côté, on va jouer dans les bois, mais finalement, on est un peu. On s'ancre pas vraiment dans la nature et sa réalité, quoi. C'est du centre aéré. Et voilà, le bon petit scout qui fait sa bonne action et qui est bien gentillé, etc., qui est pur, et voilà, et qui se fait violer par un prêtre, quoi. on est quasiment là, quoi. Le scout, c'est le mec qui se fait sauter par le curé dans les clichés, les clichés anticatholiques ou bon, les clichés comme ça qui circulent. Donc voilà un peu pour le cliché du scout, avec son petit uniforme, son petit béret, bien gentil, etc. Bon, en réalité, qu'est-ce qu'apporte le scoutisme ? Alors, on va passer sur le louftisme, donc le fait d'être louveteau. Donc ça commence très tôt, ça commence à 7 ans, il me semble, ou 8 ans, et ça finit à 12 ans. Je vais directement passer au scoutisme, parce qu'en fait, tout ce qu'on reçoit au scoutisme, on le reçoit en façon un peu enfant, adapté à l'enfant, mais c'est extrêmement sain, c'est ultra important le louftisme, et vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est hyper important, mais je vais passer directement au scoutisme, qui est la création de base. Donc au départ, on a Baden-Powell, qui est un militaire anglais, je crois, qui est en Afrique du Sud, pendant le conflit des Bourgs, je sais plus trop, hein, je sais pas exactement, je vais peut-être regarder vite fait, mais il va utiliser pas des enfants soldats, mais il va utiliser des jeunes, donc ce qui va s'appeler des cadets, je crois, et qui vont participer à des missions de renseignement et donc il va créer de jeunes éclaireurs, d'où le nom éclaireur qui va rester scout, voilà, éclaireur. Et donc, c'est une formation paramilitaire déjà au départ, qui est en contact avec la nature, avec les éléments et avec la communauté. Et donc, en fait, en réalité, ça peut être vu un peu comme un petit service militaire, mais ça va bien au-delà, vous allez voir, parce que ce qui réunit tout le monde, ça va être la foi principalement. Alors, et d'ailleurs, c'est valable dans toutes les religions. Il y a du scoutisme bouddhiste, musulman, chrétien, évidemment. Mais voilà, au départ, c'est un peu quelque chose de paramilitaire, donc créé par Baden-Powell, et de là va se créer toute une pédagogie, qui est centrée vers en fait l'enfant va pas apprendre des textes, il va pas apprendre comme à l'école, ça va pas être de la théorie, ça va être de la pratique, ça va être quelque chose de très pratique et qui vient se mettre à l'échelle de l'individu, de l'homme, de ce qu'il est, donc de la discipline. Donc on considère pas le scout comme un être de lumière, comme l'idéologie égalitaire le veut, comme le pédagogisme le veut maintenant à l'école, comme quoi l'enfant pourrait être maître des savoirs. Non, l'enfant, il rentre dans le scoutisme et il va apprendre de la loi scout. Il y a la loi scout, je vais vous la lire, il doit faire sa promesse, il doit tenir une promesse, et surtout il va respecter une hiérarchie. Donc quand on arrive dans la patrouille, on est cul de patte. Le cul de patte, il fait tout ce qui est le plus chiant à faire. Donc c'est lui qui fait un peu plus la vaisselle, c'est lui qui fait un peu les corvées, etc. Donc c'est école de l'humilité. Donc en fait, vous connaissez l'enfant roi, et ben c'est tout l'inverse. Donc quand on arrive, le cul de patrouille, quand il arrive dans la patrouille, il a 12 ans. 12 ans, et vous allez voir ce qu'il fait. Donc moi je suis rentré à 11 ans. Moi, je suis rentré à 11 ans parce que j'étais tellement insupportable au louveteau que les mecs m'ont dit « Bon, Baudouin, c'est top, mais en fait, on pense que ça te conviendrait mieux d'aller à la troupe un an plus tôt, etc. » Donc, j'avais pas été cisonnier, j'étais très triste. Donc, le cisonnier, c'est le chef de la patrouille des louveteaux. Donc, les louveteaux, de la cisaine, pardon. Donc, les petits groupes de louveteaux, c'est des cisaines, donc c'est 6 petits louveteaux. Donc, ils entrent à 7-8 ans. Super jeune, ils dorment dehors, etc., ils font du feu, donc c'est génial, et après, hop, ils montent les échelons, et à la fin, t'es cisonnier, t'es chef de ta patrouille. Et ce qui est aussi super dans le scoutisme, c'est que tout le monde avance, et la plupart des scouts, à part un peu les cassos et les bolos, ceux qui sont vraiment ingérables, ils finissent par être soit donc cisonnier, soit chef de patrouille au scout. Et c'est génial. Donc cette pédagogie, donc voilà, on commence école de l'humilité. Le cul de patrouille. Alors c'est pas de l'humiliation, c'est juste c'est pédagogique. Tu commences par le bas et tu vas monter les échelons. Donc tout de suite, t'as envie de monter, t'attends l'année suivante pour monter, pour avoir des responsabilités, pour avoir l'autorité sur le mec en dessous de toi, pour pouvoir le faire pomper, donc lui faire faire des pompes. Mais c'est génial. Donc, grosse école de la discipline. Donc en fait, je suis trop insupportable, il m'envoie à la troupe à 11 ans. Donc là, je prends vraiment cher et en plus j'étais teigneux. Donc ça m'a permis vraiment de me prendre des sanctions, de faire des pompes toute la journée, et de me prendre de me battre avec les mecs au-dessus de moi que je provoquais. Et donc je les salue, Martial, Tanguy, tous ceux que j'ai croisés. Hugo, évidemment, qui était mes supérieurs à mon arrivée, cul de patte. Donc on arrive à la troupe, donc voilà, au scout, et on va faire sa promesse. Alors il y a la promesse du louveteau, qui est une petite promesse bien gentille, mais c'est pareil, c'est un peu l'idée de la promesse scout, et il y a la promesse scout, donc ça c'est vraiment, c'est incroyable, c'est un rite de passage, donc après un an ou quelques mois à la troupe, on va faire sa promesse et on va rentrer dans la famille des scouts. Et alors comment ça se passe? Quand vous avez de la chance, quand vos chefs de patrouille veulent faire un truc stylé, c'est pendant une veillée, avec des torches. Des torches, forcément. Les torches au scout, c'est la base. Et les torches, les mecs, on les fait nous-mêmes. C'était incroyable. On va pas les commander sur Amazon. C'est pas des petits flambeaux. La torche, c'est un rondin de bois. Voilà, épais comme trois manches à balai. Hein, c'est pas un petit manche à balai. Et on va faire fondre des vieilles bougies de l'église. ou bien on achète un peu de glycérine. On fait fondre les bougies. On sort la casserole dehors et on trempe un tissu pour qu'il s'imbibe de cette cire. Et après, on va venir l'enrouler autour de ce bâton. Et on enroule le bâton. Et on crée la torche. Et après, on met un peu de fil de fer pour que tout ça tienne et on laisse sécher. Et là, vous avez une torche, donc un peu difficile à l'allumer. Mais après, mais putain, c'est trop stylé. Vous avez vraiment une torche comme dans les films. Genre Indiana Jones, il trouve des torches, hop, il les prend, il les allume, ça s'allume tout de suite. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus long. Donc on allume les torches et là, il y a la promesse. Donc il y a tout le rituel de la troupe. Donc il y a les cris de patrouille. Donc chaque patrouille a le nom d'un animal parce que c'est très lié au monde de la jungle, aux animaux, à la nature, c'est extrêmement stylé, sans être panthéiste, etc. Mais donc, voilà. Bon, moi, j'avais ma patrouille, je savais pas le nom le plus stylé, mais moi, c'était le hibou. Et c'était hibou jusqu'au bout. Donc, donc le chef de patrouille, pendant les rassemblements, il faisait, au début de chaque rassemblement, il y avait les cris de patrouille, et il faisait hibou! Et toute la patrouille disait jusqu'au! Non, il disait hibou jusqu'au! Et toute la patrouille disait bou! Bon, c'est pas incroyable, mais il y a des trucs plus stylés. Par exemple, il y avait panthère, rapide comme. Un truc comme ça, rapide comme l'éclair. Voilà, bon, c'est pas les meilleurs exemples, mais c'était stylé, c'est que chaque matin, on hurlait notre truc, quoi. Le cri de patrouille, le cri de patrouille, tu le cries dès que, bah, par exemple, pendant les grands jeux, pendant les bastons, etc., les cris de patrouille, ça se faisait, tu vois, il y avait le chef de patrouille qui faisait hibou, hibou jusqu'au, boum, bam, c'était énorme. Bref, donc, c'est la cérémonie, le rite de passage de la promesse. Donc voilà, vous avez les patrouilles avec des torches. Plusieurs torches, vous avez plusieurs chefs et vous avez l'aumônier évidemment. Et on va abaisser ce qu'on appelle le bossant. Donc le bossant, je sais pas d'où ça vient ce nom, mais c'est le drapeau du groupe, du mouvement scout. Bah, en l'occurrence, là c'était les scouts d'Europe. Donc les scouts d'Europe, la croix c'est une croix de Malte. Je crois que c'est une croix de Malte. Oui, c'est ça, c'est une croix de Malte avec une fleur de lys au milieu. Bon, déjà, voilà, le ton est donné. Et c'est blanc et noir. Donc, j'ai pas la signification du blanc et noir. Malheureusement, c'est un peu honteux pour un scout d'Europe. Mais je vais vous la rechercher. Et donc, on abaisse le bossant. Et là, on va venir faire le signe scout. Donc, c'est les trois premiers. Donc, l'index, le majeur et l'annulaire qui sont dressés. Et le pouce recouvre l'auriculaire. Et donc, ce signe scout, donc c'est donc la trinité. Les trois doigts sont la trinité et le pouce sur l'auriculaire symbolise le fort protège le faible. C'est lourdasse. Et donc, il y a le bossant. Donc, on met. Donc, là, moi, je le fais de mon côté, mais on ne peut pas le voir. Donc, bras droit levé, donc plié. Avant, c'était levé, je crois, mais il y a eu des circonstances dans l'histoire qui ont fait qu'on est passé au coup de plié. Mais bref. Et donc, de chaque côté, donc, main gauche. Le bras tendu vers le bossant, vers le bas, comme ça, qui est voilà, à hauteur de buste, hauteur de ceinture. Et pareil, du côté droit, et on fait le signe. Et là, on récite la promesse. Et là, c'est trop stylé. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon Dieu. Pardon. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église, l'Europe et la patrie, d'aimer mon prochain en toutes circonstances et d'observer la loi scout. Banger! Banger, banger! C'est énorme, c'est énorme. Donc là, donc une fois que tu as dit ça, tu deviens scout. Après, tu es béni, ou avant, je sais plus, tu es béni par l'aumônier qui te fait une prière. Donc, tu te mets à genoux devant l'aumônier et il impose les mains. Donc, l'imposition des mains donc la foi catholique, c'est ce que font les prêtres pour te bénir, que ce soit à ton baptême, à ta confirmation, etc. etc. Donc, voilà, il impose les mains et il donne la bénédiction. Et voilà, là, tu es un scout. Et là, tu commences ton parcours et ta promesse. Et tu dois tenir ta promesse, parce que c'est une promesse, c'est un serment. sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon Dieu, de mon mieux, putain, Dieu, l'Église, l'Europe et la patrie. Alors l'Europe, tout de suite, on va faire un disclaimer. Donc l'Europe, ce qui est intéressant, c'est que, alors oui, il y a le drapeau européen de l'Union européenne dans le mouvement scout et on fait la levée des couleurs avec le drapeau européen, mais c'est pas vu comme l'Union européenne. Il n'y a pas de propagande européiste. Alors certains le font évidemment parce que c'est tellement ancré dans la mentalité de tout le monde, etc. Donc parfois certains ils vont parler de l'Union européenne et tout, mais ça n'a rien à voir. Le drapeau des scouts d'Europe, il est vraiment pris comme étant le drapeau de cette Europe chrétienne, de cette Europe en plus, voilà, avec les 12 étoiles mariales, donc vraiment le drapeau européen chrétien comme il était pensé au départ, et ça n'a rien à voir avec Bruxelles, etc. Hein, parce que voilà. Donc rassurez-vous, et en plus, ce qu'il dit, c'est l'Europe et la patrie. Donc il y a l'Europe comme civilisation, et il y a la patrie, la France. Et ça, c'est très très beau. Ça, c'est très très beau, d'aider mon prochain en toutes circonstances et d'observer la loi scout. Donc cette promesse, elle est fondamentale. Et vous promettez, et vous ne devez pas transiger à cette promesse, sinon vous êtes un parjure. Donc voilà, dans cette époque où on ne prend plus de promesses, où on peut parjurer tout ce qu'on veut, puisque de toute façon on n'est rien, on n'a plus de conviction, on n'a plus de foi, on n'a plus d'engagement, on n'a plus d'appartenance, on n'a plus d'identité. Évidemment, le scoutisme est une réponse magnifique. Ça apprend le patriotisme, ça apprend la fidélité, ça apprend la piété, donc à Dieu, à la patrie, à l'Église. Donc c'est énorme. Donc c'est un mouvement catholique, évidemment, à l'Église catholique. Même si voilà, il y a des scouts protestants, etc. Juifs, bouddhistes, musulmans, comme je disais. Donc la loi scout Europe. Donc je vais vous la lire. Je crois que ça évidemment, je devrais vous la réciter, mais je l'ai un peu oublié. Alors de tête, ça commence par le devoir du scout commence à la maison. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça c'était louveteau. Non, la loi scout. Le scout met son honneur à mériter confiance. Alors attends, je vais vérifier que c'est la loi scout d'Europe. Ouais, mais je pense que c'est les mêmes. C'est les mêmes, donc je vais vous prendre celle que je trouve. J'en cherche une en bonne qualité. Bah, je vais vous prendre la devise des scouts de France, mais canal historique, parce qu'aujourd'hui, les scouts de France, c'est devenu une colonie de vacances qui ont beaucoup trahi la vraie pédagogie scout. Mais voilà, je vais vous la lire. Principe du scout de France, le scout est fier de sa foi et lui soumet toute sa vie. Le scout est fils de France et son citoyen, le devoir du scout commence à la maison. Alors ça, je sais pas trop bien ce que c'est la différence entre les principes et la loi scout, mais bref. Donc ça, c'était les principes. Donc comme je disais, le devoir du scout commence à la maison. C'est-à-dire que le scout, en fait, s'il fait le fou, s'il fait le super scout chez lui, au scoutisme, c'est très bien, mais en fait, il faut qu'il soit obéissant à ses parents, et ce qu'on apprend au louveteau d'ailleurs, il me semble. Voilà, il n'est pas là pour juste fanfaronner et faire des courbettes et se la péter au scoutisme. Il faut qu'il soit cohérent, il faut que ça continue à la maison. Ce qui est bien, c'est que c'est une pédagogie qui est cohérente. C'est que si le scout, il revient chez lui et il casse les couilles à sa mère, et ben en fait, sa mère, elle lui dit bah, « tu t'es scout ou t'es un enculé ?» Pas dans ces termes, évidemment. Pardon, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est une pédagogie qui est à la maison, qui se passe aussi à la maison, et donc qui est en continuité avec l'éducation des parents, avec l'éducation familiale, qui n'est pas en rupture, vous voyez, c'est pas comme l'école qui va aller apprendre des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que ses parents lui disent, qui vont lui inculquer des principes républicains d'inclusivité, de diversité, d'égalité, de parité, machin. Donc la loi scout, j'y viens. Le scout met son honneur à mériter confiance. Donc c'est intéressant déjà, la confiance. Ne pas être un parjure, être fiable, la fiabilité, vraiment la qualité qui nous manque le plus à notre époque. Dédicace à Gédéon, il se reconnaîtra. Le scout est loyal à son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés. Donc voilà, c'est comme je disais, ça commence à la maison, c'est en rapport avec les parents, tout ça est un mode de vie, presque, j'ai envie de vous dire. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Donc voilà, il y a cette dimension chrétienne. Le scout, il n'est pas là pour devenir le surhomme, pour écraser les autres. Il est au service de la patrie, mais surtout de son prochain. Le scout est l'ami de tous et le frère de tout autre scout. Voilà, donc cette idée de fraternité. Le scout est courtois et chevaleresque. Donc voilà, le scout ne dit pas « Wallah » et il ne crache pas par terre. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Il aime les plantes et les animaux. Eh oui. Donc les plantes et les animaux, évidemment, ça paraît cucu aujourd'hui, mais en fait, c'est pas il aime la planète. Les plantes et les animaux, c'est ce qu'il y a autour de lui. C'est ce qui est concret autour de lui. C'est qu'il n'est pas là à calculer son bilan carbone. Concrètement, il n'est pas là à parler de planète, il n'est pas dans une écologie du globalisme. Donc en plus, le scoutisme apprend l'écologie, une écologie saine, une écologie naturelle, presque intégrale. Il voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Donc il se rappelle, donc ça c'est très important, le scout donc se rappelle que la nature est une création de Dieu et qu'il nous l'a confiée. Alors il a dit soumettez les animaux, mais en réalité, il nous la confie. Il nous la confie et on doit l'entretenir. On doit la faire perdurer. On ne doit évidemment pas détruire cet environnement que Dieu nous a créé. Parce que si on prend un peu cette théologie, la création, alors évidemment, vous savez, je suis pas en train de vous parler du texte à lire de façon littérale, mais il y a toute une philosophie derrière, une poésie derrière la Genèse qui dit que Dieu, il crée tous les éléments, le ciel et la terre, la lumière, etc., la mer, les terres, les animaux, les poissons, les créatures du ciel, les créatures vivantes, etc. Et à la fin, il crée l'homme. Et en fait, il met l'homme au milieu de cette création. Mais cette création, finalement, alors comme diraient les écologistes les plus jusque boutistes, la nature en fait devrait se débarrasser de l'homme et elle continuera à vivre. Et en effet, on se dit, bah, l'homme en fait, il s'est développé parce qu'il a créé cette intelligence, il a créé un système productiviste qui détruit la nature. Donc en fait, il faudrait l'éliminer. La réponse chrétienne, elle est où? Bah, c'est que l'homme aussi est une créature de Dieu et c'est la créature finale de Dieu. Donc il la met au cœur de la nature. Donc il n'y a pas de nature sans homme. Et l'homme fait partie de cette nature. Et ce que oublient les écologistes, c'est que les écologistes, et ça on en reparlera dans un podcast parce que c'est vraiment la réponse à l'écologisme actuel, c'est que les écologistes politiques oublient que l'homme fait partie de cette création et est un animal social et politique, mais est un animal. Et qu'il est mu par des instincts, par une biologie. Donc déjà, un homme et une femme, homme et femme, il n'y a que deux genres, il se reproduit, il fait des enfants, il a une descendance qu'il veut protéger, il se défend contre les espèces invasives, les espèces prédatrices, il est un prédateur, il y a une chaîne alimentaire, etc. Donc en fait, les écologistes vous parlent d'écologie, mais oublient que l'homme est un animal comme les autres, parce que vous savez, ils ne sont qu'esprit, ils sont dans les nuées, ils sont supérieurs à tout ça, vous savez, ils ne sont qu'esprit. Ils ne sont que gaz. Je suis la gauche. Je suis au-dessus de vous, être mortel, petit facho que vous êtes. La gauche est esprit, la gauche est idée. L'écologie est une philosophie. L'homme est profondément un animal et il s'inscrit dans cette nature. Donc le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux. Évidemment, il y a cette idée derrière, cette vision chrétienne de l'homme qui est fait partie de la création. Donc voilà. Donc l'homme est un animal, il est régi par tous ses instincts, etc. Même s'il est un animal politique et même s'il doit s'extraire de tous ses plus bas instincts, évidemment, si on sautait sur toutes les femmes pour se reproduire, si on butait le premier mec qui nous a déplu parce qu'il nous a grillé la priorité à droite, on va pas céder à toutes nos pulsions. Parce que voilà, on est des animaux, mais sociaux. On a créé une civilisation, on a créé de la courtoisie. Et le scout est courtois et chevaleresque. Chevaleresque, il y a cette idée de sauver le plus faible. Le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. Ah, tiens. Il obéit sans réplique. L'obéissance. Donc, devant son chef, il n'est pas là pour récriminer, faire son syndicaliste. Mais il fait rien à moitié. Bon, par contre, oui. Il obéit à sa hiérarchie, mais une hiérarchie légitime qui est guidée par une lourde loi, la loi scout. Donc oui, moi je ne suis pas actuellement dans la société qu'on vit, un promoteur de l'obéissance quoi qu'il arrive à la loi, mais la loi scout, oui, ok, moi la loi scout, j'y obéis à fond. Il obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. Donc ouais, cette idée de faire les choses bien, totche qualitat. Voilà, on fait les choses bien, on ne fait rien à moitié, on ne commence pas une chose, on ne zappe pas, on choisit et on va jusqu'au bout de son choix, on assume son choix, car la vie n'est faite que de choix. Sans choix, on est un mollusque et on ne sait pas quoi faire de sa vie. Le scout est maître de soi, il sourit et chante dans les difficultés. Ça, c'est génial, c'est peut-être une de mes préférées. Il est maître de soi, il sourit et chante dans les difficultés. Donc pareil, c'est comme il obéit sans réplique, le scout, il est pas là. Ah, putain, non mais attends, mais le monde dans lequel on vit, mais putain, mec. Non mais attends, mon responsable, quel connard, quoi. Ah non mais là, j'ai la flemme. Oh, avoir des gosses. Oh, putain. Cirer mes pompes. Oh, mais c'est bon, quoi. Non, voilà, le scout, c'est l'inverse. Maître de soi, il sourit et chante dans les difficultés. Et c'est vrai que, ce qui est con, mais en fait, c'est très littéral, chante dans les difficultés, mais le chant dans la galère. Mais quelle force à d'homme. Je peux vous dire, quand on marchait pendant les explorations. Donc c'est, je vous en parlerai, mais voilà, on marche beaucoup dans les grands jeux ou quand on fait les installations. Donc littéralement, il y a des mecs qui ont de 12 à 17 ans et qui vous construisent un mini village à base de troncs d'arbres et avec des terrières, des tonneaux de mortaise et des techniques de menuisier. Je déconne pas, je vous racontais ce que c'est les installations au début d'un camp scout. C'est énorme. Et donc, dans toutes ces difficultés, quand on fait les installations, qu'on construit tout ça, quand on va scier des troncs, quand on creuse des trous pour les chier, ça s'appelle les feuillets. Oui, donc ça, pour le coup, ouais, pas de chiottes, rusticité. Ça, c'est génial. C'est génial. Le scoutisme est une école de la rusticité. Et dans cette rusticité, on chante. On chante dans les difficultés, ça, c'est génial. Et donc, le répertoire scout, je vous en parle pas. Donc, allez voir Kanto, donc l'application Kanto. Ou le site Kanto, donc vous avez tout le répertoire possible de chants populaires, et dedans il y a évidemment les chants scouts, etc., et ce qu'on chante. Donc c'est génial. Et il y a ce côté sourire dans la difficulté, parce que la difficulté nous rend meilleur. Sourire, l'accepter, et être vaillant face à l'effort. L'effort est positif, on chante, et on va en ressortir meilleur. Et moi je me rappelle mon second qui a été une machine de guerre. Alors j'étais tout petit, moi j'avais 11 ans, mais c'était Grégoire, il avait les Rangers, il voulait être militaire, il avait la coupe militaire, et lui c'était une brute, il était énorme, il était massif, c'était une machine. Vraiment, je le voyais déjà, le mec comme officier de l'armée de terre, c'était une machine de guerre. Et lui il me disait t'inquiète pas, après l'effort, le réconfort. Il me disait aussi, tout ce que tu vis maintenant, ça sera des putains de souvenirs. Et moi, je comprenais pas ça quand j'étais un petit cul de patte et que je plaignais, je traînais la patte parce que j'étais une merde et que... Bon, j'étais petit aussi, mais j'étais une merde et j'aimais pas faire l'effort. Mais voilà, tout ce scoutisme m'a bien éduqué, même si ça me ferait du bien encore de continuer quelques années, de revenir à cette époque et de me reprendre quelques gifles. Et il me disait un truc que je comprenais pas à l'époque, il me disait tout ce que tu fais là, tout ce que tu... comment t'en chies, et bah demain ça te fera des incroyables souvenirs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que je suis super fier d'avoir vécu tout ça, je suis super content, et ça m'inspire chaque jour. Et voilà, c'est génial. Le scout est économe et prend soin du bien d'autrui. Donc typiquement, si t'es scout, tu vas pas faire des émeutes pour Naël. Automatiquement, déjà, ça c'est une première étape. Mais aussi de cette idée, moi il y avait un truc qui m'avait choqué, mais vraiment qui m'avait dégoûté, c'était après un festival en Angleterre, mais c'est pareil partout, hein. Mais en Angleterre, ça ne m'étonne pas encore plus qu'ils ont vraiment une jeunesse qui est dans un sale état. Parce que j'ai un cousin qui est un vrai ami, qui est même mon meilleur ami, on va dire, qui est anglais, et j'ai de la famille qui est en Angleterre, qui est franco-britannique. Et je vois du coup un peu la jeunesse anglaise, et c'est vrai qu'elle est dans un putain d'état, dans un sale état. Et à certains niveaux, mieux que nous, à d'autres, pire. Notamment au niveau de l'alcoolisme. Et les jeunes femmes anglaises, pour ceux qui les ont côtoyées, vous imaginez bien, vous voyez bien ce que je veux dire. Donc voilà, le scout est économe et prend soin du bien d'autrui. Et je pensais, alors c'est même pas le bien d'autrui, mais je pensais donc à cette scène après un festival en Angleterre. Il y avait des vues en drone qui avaient filmé la fin d'un festival où littéralement, c'était une décharge à ciel ouvert de tentes. De petites tentes de camping, de secondes, etc., de sacs de couchage, de matériel de camping, qui avaient été juste utilisés par ces festivaliers. Alors évidemment, il n'y avait pas que des Britanniques d'ailleurs, qui avaient dû être achetés sur place, donc dans un magasin autour, une petite tente de secondes à 20 balles, 30 balles, etc., qui avaient été utilisés sur place et laissés sur place en tant que tel. Mais il y en avait des milliers, tu vois. Et en plus, moi, ça a résonné avec le côté scout parce que. C'est du matériel de camping, tu vois, c'est le matériel, genre moi j'allais camper, tu vois, quand j'étais scout, avec des vieux sacs de couchage de l'armée qui étaient lourds, qui étaient humides, et qu'on les portait toute la journée sur le dos, et c'était lourd, et eux, ces fils de pute, ils sont allés acheter des bêtes de sacs de couchage, des bêtes de petites tentes bien chaudes, parce que c'était pas les tentes militaires qu'on avait, nous, et les mecs les ont laissés sur place, et se sont barrés, tu vois. C'était juste histoire de dormir après cette droguée pour leur festival de merde, de musique, de dégénéré, leur petite capsule de drogue, leur petit alcool dégueulasse à base de vodka de mauvaise qualité et de rhum horrible. Et ils ont dormi juste le temps de décuver, ils sont partis, ils ont laissé ça en plan, tu vois. De cette espèce de surconsommation juste... Mais en plus, pourquoi c'est... Genre c'est... Il y a les connards qui laissent leur tente au pied de l'Himalaya, donc c'est les mêmes fils de pute, mais bon, tu vas me dire, eux, ils peuvent pas les emmener parce que sinon ils crèvent, c'est trop lourd. Et pareil, après ils redescendent, c'est trop compliqué. Mais pareil, ces enculés, ils ont les 10, l'Everest, de façon absolument horrible. Mais cette espèce de surconsommation et de mépris pour le, pour les biens. Alors oui, ça coûte. Alors certes, ça coûte pas grand-chose. Maintenant, tu achètes un sac de couchage à 20 balles, 30 balles, et tu achètes une tente pour le même prix. Et voilà, donc ça te coûte rien sur un voyage qui te coûte 300 balles pour aller dans un festival. Bah oui, le festival, il va te coûter 300 balles. Donc qu'est-ce que ça te coûte? Et de laisser ça en plan. Mais un mépris pour le matériel, parce que c'est des choses qui ont été créées, fabriquées par des gens, certes dans des usines, mais voilà, ça existe. C'est du matériel, ça a une valeur, une vraie valeur. On se rend plus compte aujourd'hui avec la surproduction, le système dans lequel on est, de la valeur de ces choses. Mais je peux vous dire, dans quelques années, quand on va se peler le cul chez nous, ou bien quand nos maisons elles seront détruites parce que ce sera la guerre, qu'on sera bien content d'avoir un putain de sac de couchage quechua, et les mecs ils vont bien pleurer parce qu'ils n'auront pas de tente pour se réchauffer. Bref, je m'éloigne du sujet. Mais ce côté, connaître la valeur des choses, la valeur des objets. Et enfin, le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Donc ça, c'est très beau. C'est qu'il y a cette dimension de la pureté, donc évidemment aujourd'hui balayée, puisque la pureté est assimilée à la pudibonderie maintenant. Et donc, on ne valorise plus du tout voilà, la pureté, la chasteté, le fait que la sexualité ne soit pas anodine, que ce soit quelque chose qui soit sacré, dédié aussi à la reproduction, évidemment au plaisir, mais dans le but de la reproduction, évidemment, car c'est la première fonctionnalité, la première fonction de l'appareil génital. On a tendance à l'oublier, c'est ça que les gens ils tombent enceintes, ils comprennent pas, mais c'est trop chiant, je suis tombé enceinte, je comprends pas, c'est injuste, bah, je vais avorter. En fait, tu as pratiqué le coït. tu as pratiqué le coït avec un individu, et le coït a pour première fonction de créer des êtres vivants. Et donc voilà, on a totalement balayé aujourd'hui ces notions de pureté. Mais on s'en rend compte aujourd'hui, tous les traumatismes liés à cette libération sexuelle qui n'a fait que libérer des bas instincts, on se rend compte qu'en fait, que petit à petit, on se rend compte qu'en fait, l'abstinence, ne pas montrer de la pornographie et la sexualité à tout va, la continence, ne pas coucher le premier soir, se réserver pour une femme qu'on aime vraiment, s'engager, ne pas se donner le premier soir pour après être jeté comme un vulgaire mouchoir. Beaucoup de femmes qui sont comme ça maintenant et qui en souffrent. Et qui à 30 ans se retrouve avec un body count, donc un compte de corps, je sais pas comment dire en français, un body count à 4 chiffres, et qui médite très durement sur leur vie. Et ben voilà, le scoutisme pareil, il apporte ça. Le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Donc voilà la loi scout, 10 articles, donc c'est magnifique, c'est quelque chose pour la vie qui peut vous emmener loin. Et ce qui est bien, c'est que c'est un bon résumé, le scoutisme, de ce qu'est l'homme européen, de ce qu'est l'évangile, les devoirs du chrétien et le devoir d'un homme dans notre époque. Et c'est un super repère parce qu'aujourd'hui, on est très partagé entre mais la société industrielle nous a corrompus, on est devenu des loques, on sait plus rien faire de nos mains, on s'est perdu dans cette consommation, on s'est perdu dans la technique, donc on veut revenir à des choses très primitives, et bon, moi j'y incite un peu hein, quelque part, les gens reviennent à l'autonomie, etc., et ça c'est génial, j'y incite à fond. Mais il y a même des gens qui veulent revenir au primitisme des primitismes, c'est-à-dire voilà, pas d'électricité, bientôt il y aura des mecs qui diront pas de chaussures, pas de chauffe, enfin pas de douche. Bon, ça c'est très rare, j'imagine que c'est des marginaux, mais il y a ça, côté des sectes très très new age, très écologiste. Là, je partageais quelque chose sur Instagram par rapport à des sectes qui se multiplient dans le sud-ouest, alors qui créent des délires de coupure avec la société et la civilisation assez poussée, mais je pense que c'est excessif. Mais par contre, un retour à la rusticité, un retour à comment vivaient nos ancêtres il y a 200 ans, bon, avec un peu plus de confort, parce qu'on a quand même, il y a des choses bonnes qu'on a acquises, mais bref. Et donc parfois certains vont vers des excès de rusticité, de retour vers une société, des sociétés très primitives, etc. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont totalement accepter la technique, qui veulent le tout technique, que la technique les rend... Il y a ce côté très prométhéen, mais excessif, qui vont tout miser dans la technique, dans le fait que l'homme, l'homme, il doit jouir de ses acquis techniques, il doit se reposer sur cette avancée, sur ses avancées, mais finalement, là-dedans, il se perd un peu, parce qu'il perd des savoir-faire, même sa biologie... est en déperdition, son alimentation lui fait que ses dents sont moins alignées, son cerveau est moins doté en bonnes hormones provoquées par l'effort physique, par le travail, par le fait de sortir à la lumière du jour, d'être connecté au cycle circadien. Voilà, toutes ces choses qui ont fait l'homme depuis des milliers d'années et qui l'ont structuré comme il est aujourd'hui, et ben en fait, la loi Scout vient donner un bon équilibre entre cet excès de cet homme livré à la technique et qui devient une merde physiquement et anthropologiquement, parce qu'il est totalement délaissé, il est totalement happé par la société du confort, par son petit cocon bien chauffé et sa petite séance de sport pareil, toujours bien chauffé en intérieur. Et à l'inverse, c'est un bon entre-deux, entre cet excès de la civilisation et l'excès du refus de cette civilisation qui consiste à retourner vivre dans des cabanes dans les bois. Voilà. Et bah, le scoutisme retourne vivre dans des cabanes dans les bois, mais le reste de la semaine, il accomplit son devoir de citoyen et d'homo politicus, je sais pas comment on dit, mais voilà, de personnes faisant partie intégrante de la société. Donc c'est un bon équilibre et c'est une bonne voie, c'est une bonne piste pour avancer, parce que voilà, le christianisme apporte des réponses, mais il n'est pas forcément incompatible avec voilà, cette espèce retournée au tribalisme ou aller à fond dans la... Voilà, le christianisme donne beaucoup de réponses, évidemment, mais voilà, enfin, en tout cas, pardon, je me perds un peu, mais ce que je veux dire, c'est que le scoutisme, c'est une bonne... un bon résumé de tout ça, et surtout c'est un excellent cadre pour un jeune enfant. Et donc j'incite vraiment, on va peut-être conclure là-dessus, mais vraiment, si vous avez des enfants, commencez à regarder autour de chez vous les groupes scouts, à essayer de savoir si ça se développe, à rencontrer des gens qui sont là-dedans et à inscrire vos gosses là-dedans. Alors je sais que ça, pardon, il y a beaucoup de mouvements qui s'affadissent ou de moins en moins, on va aller de plus en plus, on va aller mettre le petit réchaud alors qu'avant on faisait du feu, on va aller mettre des moyens plus techniques, on va un peu renoncer à ces installations, à ces grandes constructions qu'on faisait en bois parce que c'est un peu dangereux. Ah oui, mais s'il fait trop froid, on dort plus sous la tente, etc. Bon, en fait, j'ai plein d'autres anecdotes, donc on va pas terminer tout de suite. mais voilà, il y a parfois des mouvements qui se ramollissent un peu, donc moi je vous conseille Scout d'Europe, je pense que ça tient toujours très bien la route. Scout Unitaire de France, Scout de Riomont, donc là c'est vraiment le hardcore, donc là c'est vraiment solide, c'est encore une pédagogie à part. Et après il y a tous les éclaireurs neutres de France, donc c'est souvent des groupes qui sont liés à des fraternités de catholiques traditionnalistes. Donc je crois qu'il y a Scout Saint-Louis, mais bon, je connais pas trop. Moi je connais Scout d'Europe, Scout Unitaire de France, et en général, voilà. Ou Europa Scout aussi, Europa Scout. Et il y a même, je crois, du scoutisme païen, c'est Europe Jeunesse. Je crois qu'Europe Jeunesse, c'est des païens. Eux, c'est un peu des terres, je connais pas bien, mais je crois que c'est peut-être un peu trop politique et peut-être pas assez chrétien. Mais voilà, donc vraiment, pour vos enfants, je pense qu'il n'y a rien de tel pour en faire des mecs droits, des mecs solides qui vont être au contact de la nature, au contact des éléments. Et voilà. Donc, au contact des éléments, pourquoi ? Pardon. Dites-vous que, moi, quand j'étais scout à Chartres, il y avait chaque année le week-end de la commémoration de Loigny-la-Bataille. Loigny-la-Bataille, je crois que c'est à l'est de Paris. Donc carrément, le bled s'appelle Loigny-la-Bataille maintenant, parce qu'il y avait une grande bataille contre les Allemands pendant la guerre de 1800. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle la bataille pour ça, mais j'imagine. Donc c'est en Beauce, pardon. Ouais, c'est en Beauce. Donc c'est au... Je crois que c'est au... Attends, je vais vous dire, j'ai sur la carte, là. Donc c'est au nord de Orléans et au sud de Chartres. Donc c'est vraiment au milieu de la Beauce. Et s'appelle, et c'est toujours évidemment la commémoration, elle est tout le temps, je sais pas, elle est quand, elle est en hiver, tu vois, toujours dans un sale moment, je crois qu'elle est en décembre ou en février, vraiment des mois de mer, tu vois, bien froid. Voilà, je crois que c'est le 2 décembre, voilà. Le village fut le lieu d'une bataille opposant près de 40 000 soldats français à 35 000 soldats des États allemands en 2 décembre 70 et fit près de 9000 victimes. C'est lors de cette bataille que le général Louis Gaston de Saunis ordonna au colonel Athanase de Charette de la contrée de déployer la bannière du Sacré-Cœur lors de la charge des volontaires de l'Ouest, les anciens zouaves pontificaux. Le général Louis Gaston de Saunis y est blessé. Cette bataille se termina par la défaite de l'armée de la Loire. Putain, énorme. Je connaissais pas autant le détail de cette bataille. Parce qu'en fait, on y allait avec les scouts, mais moi j'étais tout petit, je connaissais pas l'histoire. Pardon. Et ouais, punaise, c'est le colonel Athanase Charette de la contrée, donc un descendant, je pense, de Charette, donc c'est extrêmement stylé. Voilà, donc une grande bataille à cet endroit-là, et il pleut, mais il faisait tellement froid, je me rappelle. Et alors, le samedi, ça allait. Le samedi, on s'installe, on fait le coin de pâte. Donc là, c'est juste le temps d'un week-end, donc on ne fait pas des installations. On met la tente, on fait le feu, etc. On fait les activités, machin. On va à un truc de commémoration le soir, etc. On se réveille le matin, 10 cm de neige. 10 cm de neige, donc voilà, faut sortir, faut faire le petit déj, etc. Il fait 0 degré, tu vois. Il fait froid et on s'en bat les couilles. On est en short, évidemment, on est en short. Short chaussures de marche et même des mecs en bateau. Je connaissais un mec qui était en bateau. Vianney, je vais pas dire les noms de famille, mais voilà. Il était toujours en bateau. Il était toujours pieds nus. Pendant les camps scouts, il était pieds nus. C'était un espèce de singe, le mec. Une espèce de monstre rugby. Et c'était très drôle. Donc voilà, on skye, il faisait froid. Et c'était le soir, donc on allait à une commémoration. Et on rentrait le soir. Il faisait 0 degré, il faisait je sais pas combien. Et les jambes nues et tout. Bon, évidemment, c'est génial parce qu'en fait, tu marches, tu chantes, tu marches 10 km, mais en chantant, et en fait, tu te réchauffes, et à la fin, tu sens plus froid. Mais voilà, le petit réveil dans 10 cm de neige, excellent, ça fait toujours plaisir. Et c'était ça, et en fait, le scoutisme, il y a le camp d'été où la météo est clémente, ou bien parfois, il pleut tout le mois de juillet si vous campez dans des endroits de merde, comme la Bourgogne ou la Normandie. Non, je déconne. Mais voilà, l'été, parfois, il pleuvait pas mal, mais sinon, le scoutisme, c'était toute l'année. Donc, et on campait dehors toute l'année, il n'y avait pas de question là-dessus. C'était short toute l'année, il n'y avait que les chefs qui étaient en pantalon, les chefs de troupe, quoi, et les assistants. Et le CP, il était en short. Certains, je crois, ils autorisaient le pantalon parfois, mais moi, on n'a jamais mis le pantalon à Chartres et à Saint-Cyr où j'ai été. Bref, donc c'était énorme. Donc, quel que soit, donc voilà, ça confronte aux éléments, à la dureté des éléments, et on vit dehors toute la journée, en fait. Si t'es à l'intérieur, c'est parce que tu vas à la messe, c'est tout. Et parfois, il y avait la messe dehors quand il y avait l'aumônier qui passait. Donc c'est tout. Et donc d'autres choses très importantes, donc le camp scout. Donc, le camp scout, donc il y a toutes les patrouilles qui se réunissent. Toutes les patrouilles de la troupe qui se réunissent et on commence le camp par faire les installations. Donc en fait, on va faire des installations, ça dure 3-4 jours, qui vont durer pour tout le camp et après on les enlèvera, c'est ça le pire. Et les installations, ça consiste à construire des lits surélevés. En gros, une cabane, mais une cabane lourdasse, stylée, surélevée. Et donc, en fait, avant le camp, on dessine des plans. On dessine des plans, on voit comment on va construire le truc, tonneau de mortaise, mi-bois. Donc, mi-bois, c'est vous creusez une entaille de chaque côté d'une, de deux poutres, je ne sais plus comment on appelle ça, des rondins ou je ne sais plus comment. Et elles vont s'encastrer. Après, vous faites un trou avec la terrière. Et après, vous mettez une cheville. Vous rentrez la cheville avec un maillet. Donc, ça donne des connaissances en menuiserie qui sont plutôt sympas en plus. Mais vraiment, donc, on utilise la terrière, on utilise les scies, on coupe nous-mêmes les arbres, etc. Qu'on essaie de sélectionner selon le propriétaire des lieux nous a indiqué. Voilà. Donc, c'est ultra lourd. On construit des trucs qui vont jusqu'à 3 mètres avec plusieurs étages et on fait des lits en hamac. Donc, c'est pas un hamac qui se balance, c'est un hamac où on va passer de la corde de chaque côté des troncs, en faisant des nœuds, et en fait on va tendre très fort et ça va faire un lit en fait en corde, et dessus on va mettre notre tapis de sol et ça va faire un lit donc surélevé en corde, et c'est trop stylé mais dur, parce que si c'est pas dur ça fait mal au dos, etc. Ça fait un peu trop comme un hamac, et donc en fait c'est un lit en corde, donc c'est énorme. Donc on prend pas forcément de la drisse parce que ça coûte cher, mais on prend de la bonne corde, souvent c'est de la corde de clôture d'agriculteurs, enfin de la corde agricole. Et on passe comme ça cette corde et on la noue, c'est génial. Et après, voilà, tu dors là-dessus. Et en fait, on dormait dans des tentes surélevées. Donc souvent, c'était les plus vieux qui étaient le plus au-dessus. Donc le CP, le second et le troisième, bah, ils étaient à 3 mètres du sol, les mecs. Et après, on crée une échelle. Et oui, non, et voilà. Donc il y a l'échelle pour monter, etc. Et tout en haut de cette cabane, tout en haut, s'il vous plaît, on va creuser avec la terrière un trou dans un des troncs de chaque côté, donc sur 2 cm, 2-3 cm. Et on va mettre les piquets de la tente. Et on va mettre la tente tout en haut de cette tente surélevée, donc de cette construction qu'on a fait qui est à 3 mètres du sol, et en haut vous mettez la tente, et c'est trop stylé. Et du coup, il faut que vous allez voir sur internet, tente surélevée scout, et donc vous avez tout en haut de ça, la construction, donc vous avez la construction et tout en haut la tente, pour vous protéger évidemment de la pluie, et comme ça, il y a 2 ou 3 étages, ou parfois un seul étage, tout le monde est au même niveau, mais souvent c'est des étages, et comme ça, tout le monde est abrité sous la tente. Alors en général, on met juste le double toit, donc en fait, il faut savoir, c'est des grosses tentes canadiennes un peu militaires, ultra lourdes, avec une toile, et c'est même pas de la toile imperméable, en fait, c'est... Donc il y a la tente, donc qui permet de garder la chaleur, et au-dessus, il y a le double toit, et en fait, c'est même pas imperméable, mais c'est juste que en fait, l'eau coule sur le double toit, Et ça s'écoule sur les côtés. C'est une toiture. C'est le système d'une toiture. Bon, une toiture, c'est imperméable, mais enfin, bien que les tuiles ont juste pour fonction de faire couler l'eau, pas de la retenir. Et ben là, pareil, la toile de la tente, elle n'est pas forcément perméable, mais elle est là pour faire couler l'eau des deux côtés de la pente. Et quand il y a un contact avec la toile de tente et le double toit, et ben là, l'eau, elle tombe dans la tente. Donc, faut toujours bien tendre sa tente, il faut toujours bien tendre les piquets, etc. Donc, c'est incroyable, c'est stylé, allez voir. Donc, ça, c'était très. Et dites-vous que ça, c'est des gamins de 12 à 17 ans qui font ça. Parce que je crois que l'âge maximal, c'est 17, 16, 17 ou 18 ans, je ne sais plus. Donc, c'est très jeune. Et donc, le chef de patrouille, après, donc le mec a la responsabilité de 8 mecs, donc entre 6 et 8 gars pour sa patrouille, et il a 16 ou 18, 16, entre 16 et 18 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, la maturité des gosses de 16 à 18 ans, c'est terrifiant. Et bah, au scoutisme, dans le scoutisme, quand vous êtes chef de patrouille, vous êtes responsable de 8 mecs. Vous êtes responsable de 8 gars, et vous les gérez. C'est incroyable. Et dites-vous que le chef de troupe, il n'est pas souvent beaucoup plus vieux. Le chef de troupe, donc il a en général entre 3. Bon, deux pour les toutes petites troupes, mais de trois à cinq patrouilles. Donc, quand il y a cinq patrouilles, cinq fois huit. cinq fois huit. Putain. Pardon. 40. 40 jeunes. 40 jeunes, entre 20 et 40 jeunes parfois. À 20 ans. Et le chef de troupe, parfois, il a entre 20 et 25 ans. Mais en général, ils sont plutôt en dessous de 25 ans, les mecs. Donc c'est incroyable, c'est des responsabilités que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus. Donc c'est une usine à créer des chefs. Et je peux vous dire qu'il y a énormément d'anciens scouts dans de grandes entreprises françaises, beaucoup de scouts dans l'armée, d'anciens scouts. Parce que souvent, voilà, ça fait des très bons. Souvent, c'est ce que disent les Saint-Cyriens, c'est que grâce au scoutisme, quand ils ont eu un gros cursus dans le scoutisme, ils arrivent à l'armée et ils ont déjà les bases en fait. Les bases de la discipline, les bases de la rusticité, du froid, de douiller, de prendre cher, de fermer sa gueule, de faire des pompes. Les mecs qui ont fait 10 ans de scoutisme, ils arrivent à Saint-Cyr, ils ont fait plus gros du travail en général. Parce qu'en plus, ils ont la tête bien faite, parce que bonne famille, etc. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, des gamins de. Il y a des CP de 16 piges, 17 piges, qui ont sous leur responsabilité 8 types. Et donc, il y a les installations, ils font tout ça, il y a le grand jeu. Et après, voilà, le grand jeu et l'exploration. Donc, ça se passe pendant le camp scout. Dites-vous que l'exploration. Donc c'est la partie un peu récréative du camp scout qui dure 2 à 3 semaines. Parfois c'est 3 semaines. Les mecs, un camp scout de 3 semaines, quand vous avez 12 ans, 3 semaines sur vos, sur vos 8 semaines de vacances d'été, ça fait mal au cul, hein. Ça fait beaucoup. Mais c'est génial. Mais pendant 4 jours, l'exploration, c'est très intéressant. C'est pareil, c'est la pédagogie scout permet ça. C'est qu'on va sortir du camp et on va aller à la rencontre du monde. On va aller à la rencontre de villages. On va découvrir le pays dans lequel on se trouve. Voilà, vous faites un camp en Bourgogne, moi j'ai fait un camp en Bretagne, j'ai fait un camp en Pologne, près de Świnoujście, un truc comme ça, donc à la frontière allemande, au nord, tout au nord. Et j'ai fait un camp en Savoie, donc à Hautecombe, incroyable. Hautecombe, c'est la Savoie, extraordinaire. Au bord du lac du Bourget, donc le paradis, je suis retourné plus souvent après, tellement ça m'avait marqué cet endroit. Des camps en Bourgogne aussi, ou quoi sinon, c'est à peu près les camps que j'ai fait. Et vous allez découvrir le pays. Et moi, par exemple, quand en Savoie, pendant l'exploration, alors c'était une exploration très très randonnée, etc. On était monté jusqu'à la Croix du Nivolet, donc une grosse ascension. C'était assez exigeant avec le gros sac dans le dos. Et on avait aussi des explorations. On avait fait une exploration en Pologne, du coup, pendant le camp en Pologne. Et on avait découvert donc des villes en Pologne. Donc dites-vous que notre CP, il était mineur, Hugo, un frère maintenant, un frère. Il avait 17 ans et il nous emmenait, il était mineur, il nous emmenait découvrir. Alors, nous, on avait le gros avantage, c'est que notre second, Thomas, donc gros dédicace à Thomas était franco-polonais. Donc il nous avait régalé. On était allé dans une famille, de la famille à lui, je crois. Il parlait polonais, donc on s'était trop bien mis. Mais l'idée, c'est que de prendre sa patrouille et d'aller découvrir. Et souvent, et en fait, alors on peut faire ce qu'on veut pour le coucher, ça c'est cool. Et du coup, le but était souvent d'aller chez des gens et de faire connaissance et du coup de se faire et de demander le gîte. et le couvert si possible. Alors en général, ça se finissait souvent dans le jardin d'une personne ou dans une salle des fêtes, mais parfois il y avait des gens qui vous accueillaient dans leur grande maison avec piscine, etc. Donc ça finissait en film parfois. Donc ça coupait un peu de la rusticité du camp scout, mais on apprenait à rencontrer des gens, et souvent c'était dans des coins super ruraux, donc on faisait des super rencontres, et en général on était super bien accueillis, parce que c'était des gens de la ruralité, c'était des super Français enracinés, bien souvent. Et ça, c'était génial. Et c'est pour ça que le scoutisme apprend tout. Il apprend tellement de choses. Il apprend à se débrouiller, comme je vous disais, à construire des putains de cabanes avec des tonneaux de mortaise. Je sais pas si vous vous rendez compte. Quel gamin de 12 ans fait ça aujourd'hui? Les gamins de 12 ans aujourd'hui, ils font des concours de qui va avoir une skin sur comment il s'appelle, ce jeu de merde, là, le jeu avec où on se fait parachuter, là. C'est pas BF42. Attention, BF42, on se fait parachuter, mais c'est pas la même. Donc on allait demander l'hospitalité aux gens, et on faisait des super rencontres, des gens qui avaient des choses à raconter, des collectionneurs, des excentriques, un couple super gentil qui on repartait avec de la nourriture, c'était extraordinaire. Et l'exploration, dites-vous, pendant 4 jours, on partait avec notre petite patrouille, et on allait explorer tout ça, c'était génial. Et sous l'autorité d'un mec de 16 ans, c'était incroyable. Et le grand jeu, je vous passe, mais c'était extraordinaire, je vais le faire rapidement. Ouais, il y a le petit qui vient m'embêter pour mon podcast, surprise de fin. Ah, toi, tu vas le louf, toi, bientôt. Oh là, dans 5-6 ans au moins. Le grand jeu, c'était, il y avait un thème, il y avait une histoire, et tout le monde, chaque patrouille était un camp de cette histoire, et participait à une grande bataille, à une grande concurrence des camps. Donc c'était génial parce que ça inscrivait dans l'histoire, pareil, on apprenait l'histoire, c'était, je sais pas, ça pouvait être les guerres de religion, ça pouvait être les guerres de Vendée, ça pouvait être je donne que des exemples ultra stylés, mais parfois c'était les teutons, les machins, les guerres en Bretagne, c'était incroyable. Et du coup on apprenait l'histoire de France, et on la vivait parce qu'on s'identifiait à un camp. Ah, on est les Armagnacs, on va attaquer les Bourguignons pendant la guerre de 100 ans, c'était incroyable. Et on faisait des batailles de fortins. Les fortins, c'était, il fallait protéger un truc qu'on devait défendre, et il fallait qu'on construise un peu à l'arrache, hein. Les fortins, c'était un peu à l'arrache. Je vais mettre sur les genoux le petit. Il doit aller se coucher. Et les batailles de fortins, c'était incroyable. Ah non, il se couche pas encore, ok. Et on construisait un fort à l'arrache, avec plein de rondins, et on mettait des ronces, des feuillages, et on devait protéger un drapeau, un truc, un coffre, un trésor, et ça se tapait ce qu'on appelait la main plate. Donc la main plate, c'est tout ce qui est baston, donc tu peux faire tout ce que tu veux, sauf les coups, tu mets pas de coups. En fait, la main plate, c'est juste de la soumission. Et en fait, comment tu soumettais un mec et tu le renvoyais dans son camp, c'était en lui aplatissant les épaules à terre pendant 3 secondes. Et mais putain, c'était d'une brutalité. C'était incroyable. Et du coup, ça nous apprenait à nous battre. On n'avait pas peur de se battre, du coup. Le contact physique. Et on apprenait à se plaquer par terre, à se maîtriser. Voilà. Bon, les amis, ça fait déjà 52 minutes. Donc, je vais couper là. Il y a le petit qui commence à toucher au micro. espèce de démon. Il touche au micro, et j'aurais plein de trucs à vous raconter. La Sioule, donc c'est un espèce de rugby sans règles. Mais voilà, en tout cas, le scoutisme a été une énorme expérience, même si j'en ai pas fait très longtemps. Et donc je vous invite vraiment à vivre ça, à faire vivre ça à vos gosses. Donc voilà. Voilà, c'était un peu long, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt, et passez de joyeuses fêtes de fin d'année. Passez de joyeuses fêtes de Noël, de fêtes de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à très bientôt.